alors?
Miaou, 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 miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Tcha tcha tcha.
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Bien, et ben nous voilà, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de bar à chat. Bonjour Chaussette.
Bonsoir.
Bonjour MC Sit.
Bonsoir.
On attend Manu. Et puis Félix Potin est à la technique. Mais j'en suis sûre, elle va intervenir. Non, nous dit-elle.
On va déjà tenter de gérer, mais on va se débrouiller comme une chef. On croit en elle.
Bon, alors, bien voilà, hein, nous allons aujourd'hui intervenir sur un vaste sujet, le consentement. Et oui, les chattes n'ont peur de rien. Alors, je vais peut-être demander à Chaussette de quoi elle va nous parler et à MC Sit aussi.
Cystite. M-cystite,
pardon.
Comme la maladie.
Bien, alors Chaussette, de quoi vas-tu nous parler?
Donc justement, là, comme tu l'as dit, Mémaï, du consentement et en particulier du consentement sexuel. Voilà, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui.
Moi, je vais rediffuser une interview d'Elsa Dorlin quand elle est venue parler de son livre Se défendre au lieu dit, du coup, il y a quelques semaines.
Ok, on va commencer par Chaussette.
Oui.
Ah, mais j'avais quelque chose à dire avant, mais je ne sais pas si... Voilà, j'avais envie, avant de laisser la parole, de donner quelques définitions.
Oui.
Sur le consentement.
Pas de souci.
Par exemple.
Nous t'écoutons.
Le consentement est un concept... J'ai lu ça sur, bien sûr, Internet, Wikipédia, ce que vous voulez. Le consentement est un concept de philosophie morale. Il se décline dans le domaine du droit de la famille, accepter un mariage par exemple, mais aussi dans le domaine du droit à la santé, puisqu'il est dit qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement et libre et éclairé de la personne. Le synonyme, acceptation, acquiescement. Voilà, c'était une toute petite... Entrée en matière.
Très bien.
Chaussette, à toi.
Ouais, je repars un petit peu sur les defs aussi. Donc voilà, moi je vais vous parler aujourd'hui du consentement et plus particulièrement du consentement sexuel. Donc qu'est-ce que c'est? Donc le Larousse nous dit, le consentement en règle générale, c'est l'action de donner son accord à une action, à un projet, acquiescement, approbation, assentiment, ce que tu viens à peu près de dire. Donc aujourd'hui, moi, voilà, je vais vous parler plus précisément du consentement sexuel, parce que l'actu a beaucoup tourné autour de ça dernièrement. Donc depuis l'affaire Weinstein et puis les révélations en chaîne d'agressions sexuelles, les mouvements MeToo, Balance ton porc, ou encore le débat qui se fait aussi actuellement en France sur l'âge du consentement avec récemment deux affaires judiciaires qui ont impliqué des hommes d'une trentaine d'années accusés de viol sur des fillettes de 11 ans. Puisque je le rappelle à toutes fins utiles, le sexe sans consentement, c'est un viol. Oui, un viol, ce n'est pas, contrairement à l'imaginaire collectif, l'agression d'une faible femme bien sous tout rapport par un inconnu violent et armé dans une ruelle sombre. C'est une configuration possible d'un viol, mais c'est loin d'être la seule, et c'est surtout loin d'être la plus courante. Ce qui définit un viol, c'est l'absence de consentement d'une des parties. Pas besoin de forcer, pas besoin de coups ni de cris. Avoir un rapport sexuel avec une personne qui n'est pas consentante, c'est donc un viol. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une vidéo que je trouve très pertinente, qui tente d'expliquer le consentement aux relations sexuelles d'une manière simple et accessible à tous. Elle a été réalisée en 2015 par Blue Seed Studio, et cette vidéo s'intitule « T'y consente ». Elle tente une analogie entre une tasse de thé et une relation sexuelle. Donc je vais vous narrer ici ce que dit cette courte vidéo, que je vous recommande également d'aller visionner sur le net. Elle est très facilement trouvable sur YouTube par exemple. Si vous avez encore du mal avec le consentement sexuel, imaginez simplement qu'à la place d'initier une relation sexuelle, vous prépariez une tasse de thé. Vous dites « Hé, est-ce que tu aimerais une tasse de thé ?» Et l'autre « Oh mon Dieu, oui, j'adorerais une tasse de thé, merci !» Maintenant, vous savez que l'autre veut une tasse de thé. Si vous dites « Hé, est-ce que tu aimerais une tasse de thé ?» Et l'autre « Tu sais, je suis pas sûre. » Alors vous pouvez lui faire une tasse de thé ou pas. Mais soyez conscient que l'autre peut ne pas la boire. S'il ne la boit pas, et c'est ça qui est important, ne le faites pas boire. Que vous ayez préparé ce thé ne vous donne pas le droit de le faire boire. Et si l'autre dit « non, sans façon », alors ne lui faites pas de thé, pas du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne le forcez pas à boire du thé, ne soyez pas fâché qu'il ne veuille pas de thé, il n'en veut pas, c'est tout. L'autre peut aussi dire « oui, merci, c'est gentil de ta part », et quand le thé arrive, il n'en veut absolument plus. C'est sûr, c'est ennuyeux, car vous avez fait l'effort de préparer du thé, mais l'autre n'a aucune obligation de le boire. L'autre en voulait, maintenant il n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis avec le temps, que cela prend de faire chauffer la théière, infuser le thé et d'ajouter le lait. Et c'est normal que des gens puissent changer d'avis, et vous n'êtes pas autorisé à les forcer à le boire. Et si l'autre est inconscient, ne lui faites pas de thé. Les personnes inconscientes ne veulent pas de thé, et elles ne peuvent pas répondre à la question « voulez-vous du thé ?» Tout simplement parce qu'elles sont inconscientes. Ok, peut-être l'autre avait-il tous ses esprits quand vous lui avez posé la question, et il a dit oui. Mais le temps de faire chauffer la théière, infuser le thé et d'ajouter le lait, l'autre est maintenant inconscient. Vous devriez reposer le thé et vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité. Et voici encore quelque chose d'important, ne lui faites pas boire du thé. C'est vrai que tout à l'heure, elle avait dit oui, mais les personnes inconscientes ne veulent pas boire du thé. Si quelqu'un dit oui pour un thé, commencez à le boire et perd conscience avant de le finir, ne continuez pas à verser le thé dans sa gorge, écartez le thé, assurez-vous que la personne soit en sécurité. Car les personnes inconscientes ne veulent pas de thé, je vous le dis. Si quelqu'un vous a dit oui pour un thé samedi dernier, cela ne signifie pas qu'il veuille que vous lui fassiez du thé tout le temps. Il ne veut pas que vous alliez chez lui à l'improviste pour lui faire du thé et le forcer à en boire en lui disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ?» Il ne veut pas non plus se réveiller et vous trouver en train de verser du thé dans sa gorge en lui disant « Mais tu voulais du thé hier soir ?» Si vous pouvez comprendre à quel point c'est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous pouvez comprendre quand il n'en veut pas, comment se fait-il qu'il soit si difficile de le comprendre lorsque c'est à propos de sexe ? Pour le thé, comme pour le sexe, le consentement est essentiel. World was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd miss somebody like you.
Somebody like you. I never dreamed I'd miss somebody like you. And I'm falling in love. And I'm falling in love. And
je suis à l'arrache-moi.
Nobody knows nobody.
Ouais, c'est bien.
Bien, ben maintenant, maintenant nous allons avoir l'interview que a réalisée Sissite d'Elsa Dorlin. Et puis on discutera, je pense, après on aura de quoi discuter.
Ah bon, ok. Donc du coup,
ouais, il y a un peu de cafouillage.
Désolé pour le bug. Alors du coup, oui, l'interview d'Elsa Dorlin, ça a été réalisé ici au studio de Radio Saint-Aff. Donc je l'ai beaucoup tronqué parce que ça avait duré une demi-heure à la base. Et du coup, elle venait parler de son livre Se défendre, une histoire de la violence, qui du coup est aussi beaucoup tourné vers un angle féministe dans sa rédaction. Et je trouvais ça intéressant du coup de le diffuser dans le bar à chat. Donc ça n'a pas un lien direct avec le consentement, quoi, qui est le thème d'aujourd'hui, mais je trouve quand même parler d'Elsa Dorlin qui venait à Saint-Aff, je trouvais que c'était quand même plutôt intéressant de lui poser deux, trois questions. Donc je vous laisse écouter l'interview. Professeur de philosophie à l'université Paris 8 et ayant déjà publié des ouvrages tels que « Sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe » ou encore « La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française », vous présentez aujourd'hui au lieu-dit de Saint-Afrique votre livre « Se défendre, une philosophie de la violence » paru chez Zone. Bonjour Elsa Dorlin. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation à Radio Saint-Af. Donc, pour celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre au lieu-dit ce soir, pouvez-vous nous faire une présentation synthétique de ce que vous entendez par violence ?
En fait, le livre, il traite surtout de la façon dont... Enfin, il parle d'un constat plus exactement sur ce qui est qualifié de violent aujourd'hui dans les mouvements sociaux, les mobilisations politiques contemporaines, et puis ce qui relèverait vraiment de mobilisations considérées comme acceptables ou comme entendables, et qui resteraient dans une sorte de zone délimitée, qui serait la non-violence ou... Voilà, la parole, la revendication calme et raisonnée. Mais en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment dans l'histoire, cette attribution de la violence ou pas, elle était en fait une façon de stigmatiser certains mouvements comme des mouvements, justement, enfin de ne pas les considérer comme politiques, de ne pas les considérer des mouvements en les renvoyant à des manifestations de violence. Et ce qui masque en fait aussi une répression massive des mouvements sociaux actuels. Mmh. Et donc qui masque en fait une violence première, qui est celle surtout de la répression policière et puis de la violence exercée à l'échelle de l'État.
Mmh. On en reparlera après. Mmh. Au-delà des pratiques physiques, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres techniques de défense concrètes utilisées donc par et pour des femmes ?
Dans l'autodéfense féministe ?
Bah oui, mais du coup là on parle pas de quelque chose de physique, quoi. C'est pas du combat, quoi. Mais
ouais, mais en même temps, voilà, si on pourrait parler des techniques d'autodéfense féministe, par exemple telles qu'elles ont été développées dans l'Wendo, dans le Fendouchi ou en Belgique par l'association Garance, mais ou d'autres pratiques en France, d'autres groupes d'autodéfense, il y en a eu plusieurs, Riposte, Brin d'Acier, le Diana Prince Club, etc. Donc il y a eu des groupes qui sont là encore, enfin qui sont actifs et qui développent des techniques qui sont pas seulement des techniques physiques, qui sont aussi des techniques verbales, puisqu'on travaille beaucoup sur l'autodéfense verbale, et des techniques évidemment qu'on pourrait appeler un peu... à la va-vite d'empowerment, c'est-à-dire de reprise de confiance en soi, etc. Mais il y a quand même une philosophie qui travaille l'autodéfense féministe, c'est que pour acquérir une confiance dans la défense verbale et dans la, tout simplement une confiance en soi, confiance en ses émotions, confiance en ses ressentis, c'est-à-dire que si une situation me met mal à l'aise, en fait, j'ai pas à la subir ou à continuer à sourire, il faut juste que... Voilà, que cette situation cesse et que je trouve les ressources en moi pour me dire que je suis légitime à considérer qu'il faut que ça cesse. Il y a une philosophie de l'autodéfense qui consiste à dire justement à repasser par le corps et à considérer que si on sait que physiquement, en fait, on est dans une forme de présence à soi et de capacité d'agir et de réinvestissement de sa puissance, en fait, ensuite, l'autodéfense verbale et la dimension psychologique, elle va suivre. Alors qu'on aurait tendance à inverser le processus ce qui est compliqué, parce qu'en fait, pour justement avoir confiance en ses mots, confiance en sa parole, confiance en son nom, un cri, dans une certaine mesure, il faut d'abord avoir ressenti ou fait l'expérience d'avoir réanimé son corps, d'habiter son corps. Et donc, on passe plutôt d'abord par une dimension très physique, très musculaire, très charnelle. En tout cas, moi, c'est cette autodéfense, pour moi, qui constitue l'une des forces, en fait, de l'autodéfense féministe. Mmh. Et de, voilà, plutôt de s'interroger sur, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On renverse les tables, on balance des cafés chauds, des verres d'eau, on casse des genoux. Voilà, on va mettre des gifles, alors, du coup, voilà.
Ok, très bien. Bon, du coup, je vais un peu passer du coq à l'âne avec ma question suivante. J'aimerais revenir à une question plus large. Donc, dans votre livre, vous parlez de la généalogie du Krav Maga. D'ailleurs, c'était chouette parce que moi, il y a plein de trucs que j'ignorais, donc ça, c'était assez intéressant. Mais de manière plus globale, quelles sont aujourd'hui les stratégies de défense possibles, donc là, par toutes et tous, dans les luttes de terrain, quoi, sur le plan physique, mais également sur un plan plus juridique ou...
Encore une fois, moi, si j'ai utilisé les luttes à la fois... anti-impérialiste, les luttes contre la colonisation, le fascisme, contre le sexisme, c'est qu'à chaque fois, il faut rappeler que c'est des situations où des individus sont exposés au risque maximal de mort. Mmh. Et que le lien, en fait, il y a tout à fait un lien entre la lutte contre le fascisme, le suprémacisme blanc aux États-Unis ou le colonialisme et la question du sexisme, c'est tout simplement parce qu'il y a des corps qui sont exposés à la mort alors que d'autres en sont épargnés. Mmh. Et que par conséquent, cette question du recours à des outils, des ressources et des techniques d'autodéfense, c'est ça qui m'a intéressée. Donc les techniques qu'on a à disposition, c'est le répertoire d'action qu'on peut aller puiser dans une histoire des luttes, dans une mémoire. Et moi, mon parti pris a été d'aller de faire la généalogie d'une mémoire des corps et des techniques corporelles qui ont été élaborées, créées, réinvesties par des mouvements, des individus parce qu'en fait il n'y avait pas d'autre choix que de ce passage physique corporel à la violence, parce que le corps était exposé, encore une fois le corps était une proie. Mm-hmm. Et dans certains mouvements actuels, des militants sont par définition chassés. Mm. Voilà, et sont abattus. Donc ensuite c'est le choix des mouvements de s'autodéterminer et de choisir
le mode d'action.
Le mode d'action.
Ben justement, ça fait bien écho avec la question suivante. Hein. Donc, nous vivons actuellement dans un état policier meurtrier, comme l'a notamment prouvé le non-lieu déclaré récemment sur l'affaire de Rémi Fraisse. Donc, je serais curieuse d'avoir juste votre opinion, en fait, sur cette décision de justice. Quoi.
Ben, c'est intéressant, parce que, évidemment, quand on fait l'histoire, en fait, de la violence... Et de la façon d'y résister ou d'y survivre, plus exactement, on fait forcément l'histoire de l'État. Et dans cette histoire de l'État, en fait, moi, ce que j'ai tenté de montrer, c'est que aujourd'hui, on assiste à une sorte, à la radicalisation d'un processus qui est là depuis longtemps, en fait, qui est héritier de la période coloniale, notamment. Et qui est la mise en place d'un État sécuritaire avec des modes de gouvernement que moi j'ai appelé un gouvernement défensif, c'est-à-dire qui va mobiliser de façon exponentielle la notion de légitime défense. Ce qui est quelque chose d'inédit, y compris dans l'histoire politique de l'État. C'est-à-dire que quand on entend la modification de la législation sur la légitime défense pour les forces de police, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un hiatus, même théorique, important. C'est que normalement, les forces de police n'ont pas de légitime défense. Les forces de police sont là pour maintenir l'ordre. Voilà. Après, elles le font de façon proportionnée, disproportionnée, etc. Mais elles incarnent une forme de d'usage légitime de la violence, voilà, d'une définition de l'État. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que si on considère que les forces de police ont accès à la légitime défense, ça veut dire que en face, les mouvements sociaux sont forcément criminalisés, sont forcément considérés comme des agresseurs, comme des ennemis, comme des potentielles menaces, et des menaces suffisamment éminentes, permanentes, pour que dans n'importe quelle situation, les forces de l'ordre puissent être considérées en légitime défense. Et ça, ça s'appelle juste l'octroi d'un droit de tuer, d'un permis de tuer. Et qui peut aussi se déployer dans le fait d'une privatisation des prérogatives de police. Parce que si aujourd'hui les forces de police déploient en fait des technologies vraiment de mise à mort, et notamment qui ciblent des militants, qui sont à ce point élaborées, ce qu'on va voir, ce qui est en train de se mettre en place sur la ZAD et avec les déclarations, où il y a quand même eu dans le Monde du 8 janvier une déclaration des forces de gendarmerie qui disent que c'est le dispositif qui va être mis en place pour évacuer la ZAD est un dispositif qui n'a jamais été d'une telle ampleur en métropole, mais qui a été utilisé de façon relativement traditionnelle dans les dom-toms pour réprimer les mouvements sociaux. Et donc, ce représentant de la gendarmerie conclut, et donc il va avoir des morts. C'est un énoncé qui est absolument, je veux dire, qui est paradigmatique aussi de la façon dont on considère que aujourd'hui les forces de police sont aussi fortes d'une expérience qui est la répression de mouvements sociaux dans les dom-toms, qui a massacré, je veux dire, en 67, en 74, des syndicalistes, des militants, etc. Et qui, en métropole, n'était pas, en tout cas, qui n'était pas à ce point visible. Mais aujourd'hui, ils peuvent annoncer ça parce qu'ils vont considérer que c'est de la légitime défense, qu'ils sont en légitime défense. Et donc que tout acte d'usage excessif de la force, en fait, ne sera qu'une réponse à une violence première qui est celle des militants. Et qui va donc légitimer en retour la violence policière. Donc c'est en ça qu'il y a la situation, elle est tragique. Et c'est pour ça que la question de la violence, elle est très importante à repenser au niveau des mouvements. Et qu'elle ne soit pas évacuée, ni même laissée en fait, à une toute petite minorité qui aurait justement à endosser le fait d'être violent. Mais je pense qu'il faut faire en sorte, en tout cas, peut-être d'un point de vue stratégique au niveau des luttes, de faire en sorte que des mouvements réputés comme non-violents puissent aussi endosser des formes de violence pour éviter que certains mouvements soient stigmatisés, d'autres pas. Et c'est pour ça que dans l'exemple du féminisme, il est très important, à mon sens, qu'un certain nombre de mouvements considèrent que voilà, ça peut passer à la violence parce que la violence première, c'est celle du sexisme et c'est celle d'un État qui protège les personnes qui mangent chaque jour à la table des agresseurs. Donc, et du côté des mouvements sociaux, voilà, il ne faut pas isoler un certain nombre de mobilisations aujourd'hui, parce que plus on aura cette forme de désolidarisation, et plus ces mouvements sociaux vont être la cible d'une répression meurtrière.
Mais justement, question assez logique juste après, donc selon vous, à partir de quand un sujet est-il considéré comme une menace pour l'État ?
Alors, en fait, historiquement, on peut dire que si ce sujet est basané, noir, issu de l'immigration postcoloniale, c'est effectivement un sujet qui est considéré comme une menace en soi. Et là, l'exemple des États-Unis, qui a été un laboratoire quand même de l'État, qui reste un laboratoire de l'État racial, et évidemment, pour moi, un objet de réflexion et d'étude qui est privilégié, parce qu'on voit bien comment la construction du corps noir a fait que, notamment les hommes, mais aussi les femmes, mais les hommes surtout africains-américains, sont des corps tuables. Donc aujourd'hui, je veux dire, la situation française sur notamment la question des migrants fait que vous avez des corps qui sont considérés comme des menaces et qui sont des corps tuables. Voilà. Et que au nom de cette construction voilà, contemporaine de l'État sécuritaire, on va se défendre de ces corps en déployant tous les moyens de répression pour les arrêter ou les évacuer ou les anéantir.
Et donc, sachant cela, y a-t-il une urgence à se défendre aujourd'hui ?
Bah, un peu, oui. mais encore une fois, la défense, peut-être la question de la défense, elle est d'abord et avant tout une question éthique pour, à la fois pour les individus, pour les militants, pour les mouvements. C'est l'idée que ne perdons pas de vue que c'est la vie, c'est nos conditions de vie en fait qui sont en jeu. Donc, et c'est pour ça que casser en fait le cadre dans lequel on veut nous faire penser à la défense sur la question, il y a les violents, les non-violents, à quel niveau recourir à la violence est légitime, à quel niveau ça l'est plus, à quel niveau je suis autorisée à balancer une baffe ou pas, est-ce que si la personne m'a dit t'es bonne, t'es jolie, machin, enfin, toutes ces questions en fait nous viennent polluer une réflexion qui doit s'autonomiser de ce cadre d'analyse. Et donc, et d'abord penser que la question de la défense, c'est une éthique de soi, c'est une éthique aussi et une défense des vies que nous considérons comme vivables, alors que nos vies sont rendues invivables.
Alors, ça vous a plu ?
Ouais, moi, tout à fait. Tu peux rappeler le titre de son ouvrage ?
Alors, c'est Se défendre, une histoire de la violence.
Une histoire de la violence. Et donc, du coup, c'est un gros bouquin ?
Ouais, c'est quand même un gros bouquin. Je crois qu'on en a quand même pour 300 pages, quelque chose comme ça. Okay. Après, ce qui est super chouette, c'est qu'elle a aussi fait des extraits sur YouTube de tous ses chapitres. Donc, où elle explique un peu de manière beaucoup plus vulgarisée son livre. Quoi. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant.
Parce que toi, tu l'as lu, son bouquin.
Ouais. Et... Mais j'avoue que j'avais été pris de court et que du coup, les vidéos m'avaient aussi beaucoup aidé.
Ouais. Parce que tu trouves, enfin, tu considères qu'il est accessible au niveau de la lecture ?
Oui, je considère que c'est accessible.
Ouais, ok.
Faut juste prendre le temps.
Ouais. Ok. Ok. Non, mais c'est intéressant. Enfin, tout ce qu'elle, parce que là, si j'ai bien compris, elle fait un historique et puis elle parle de défense physique, mais aussi pas morale, pas mentale. Je sais pas comment on peut le dire. Après, il y a aussi l'aspect juridique. Ça a l'air quand même...
Après, c'est moi qui ai voulu l'amener en fait, sur ces questions-là parce que ça m'arrangeait bien.
Oui, bien sûr.
J'avais envie d'avoir des réponses, ne serait-ce que pour moi.
Ouais.
Mais en fait, dans son bouquin, ça parle beaucoup du rapport au corps. En fait. Comment, à partir de quand, le corps se libère, va devenir vraiment l'outil quoi, d'action. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, là, ça a été coupé dans l'interview, mais elle parlait des suffragistes qui, elles, s'étaient mises au jiu-jitsu.
Ouais.
Et ça, c'était à l'époque, du coup, c'était, je ne sais plus, 20e, quelque chose comme ça, début 20e, où c'était complètement nouveau. Et en même temps, elles ont eu un petit peu le monopole de ce sport parce que c'était considéré comme un sport non viril. Donc du coup, elles ont appris à se défendre en fait, au travers de cette discipline. D'accord. Et elle parle aussi du Krav Maga qui a été aussi beaucoup utilisé, du coup, de manière plus récente. Enfin, voilà, tout un tas d'histoires, quoi, rapport au corps. Et j'arrive pas à mettre mes pieds. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment avec elle. Je trouvais ça très intéressant.
Et c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle disait, c'est que quand elle parle de se défendre par la parole, elle parle aussi que ça doit venir physiquement, c'est-à-dire qu'il faut que la personne physiquement se positionne et soit et une certaine assurance pour pouvoir après assumer ça.
Oui.
Je sais pas comment dire autrement, mais par la parole. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais
oui, le fait de prendre en main sa défense, de vouloir sa défense, ça décolonise les esprits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on veut se défendre et qu'on va se défendre, on réagit différemment au niveau...
On pense différemment.
Oui, on pense différemment. Oui, c'est important, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'elle insistait un peu là-dessus aussi, quand je lui demandais quels étaient les modes d'action, voilà, de défense. Donc là, j'étais plutôt axée sur le féminisme, pour cette question-là. Elle me disait qu'il fallait aussi sortir de ce truc des groupes de paroles, etc. Toujours parler, 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 parler. En fait, non, se dire qu'on était en capacité d'agir physiquement et qu'il fallait partir de là et non pas s'épancher, voilà, genre, oh mon Dieu, que c'est triste, et faire des groupes et boire de la tisane ensemble en pleurant en rond.
Ouais. Si on peut aussi avoir ce mode d'action-là.
On peut faire les deux. On peut faire les deux. Du coup, de garder à l'esprit, en fait, voilà, qu'on a cette capacité physique et juste d'en prendre pleinement possession.
Ouais.
Je pense que c'est ça, en fait, l'essentiel, un petit peu, de son bouquin. Enfin, en tout cas, d'un point de vue féministe, c'est ce que j'ai retenu.
Intéressant. Bah, ça donne envie d'aller le lire.
Mais j'ai rien contre la tisane.
Ouais, j'espère. On est pas loin, finalement, du consentement. Parce que consentement, viol, violence.
Hein, oui, donc, oui, non, mais voilà.
Donc, si on apprend à se défendre, on va se défendre d'autant mieux contre le viol. Quoi. C'est clair que c'est une bonne démarche. Qui est implicite dans tout ce qui est politique. Hein,
ouais,
donc, c'est une bonne chose.
Ouais. Voilà. Est-ce qu'on s'écoute à un petit peu de musique, du coup?
Ouais, on est prêts? Moi, j'ai choisi Garbage, du coup, pour la suite.
Yeah.
chaussette, tu nous parles des zones grises.
De la zone grise, oui. Je vais revenir du coup. J'avais préparé deux papiers cette fois-ci. Des fois, je suis à l'arrache, puis là, bon, j'avais quand même un
petit truc.
Voilà. Je sais pas, je vais essayer en tout cas. Oui, donc voilà, pour aller un petit peu plus loin sur la notion de consentement, en fouillant un petit peu sur la toile et dans les bouquins, je me suis heurtée à une nouvelle appellation qui est la zone grise, en fait. Donc, vous avez une idée un peu de ce que ça peut être, la zone grise ?
Non.
Voilà,
Un petit peu.
Ce serait une zone floue. Où le consentement n'est pas exprimé, en tout cas clairement, et où le refus n'est pas manifesté. Alors l'homme, car c'est majoritairement le cas, ne sait pas s'il a été plus loin que ce que voulait son ou sa partenaire, et le ou la partenaire a du mal à savoir s'il a voulu le rapport sexuel. Voilà, on reste vraiment sur cette idée de consentement sexuel. Et alors du coup, pour développer, moi je vous invite vraiment à aller lire une nouvelle de Kristen Roupenian, qui est une américaine, il me semble, qui s'appelle « Cat Person ». Donc il est en anglais actuellement, hein, ça traite de la notion du consentement à travers l'histoire d'un rencard raté. Donc il est disponible sur le site internet du New Yorker, en anglais. Alors après, à fouiller, il y a peut-être des traductions qui ont été faites. Moi, je me le suis coltiné en anglais. Bon, voilà, ça se lit, ça va quand même, quoi. Le récit, en fait, raconte l'histoire de Margot, 20 ans, et de Robert, 34 ans, qui, après avoir flirté quelques temps par SMS, sortent ensemble, passent un premier rendez-vous plutôt raté, et finissent par avoir une relation sexuelle complètement ratée. Donc, le point de vue exposé est celui de Margot, qui, en cours de route, en fait, n'a plus du tout envie de coucher avec Robert, mais qui finit par le faire quand même, par politesse, par gêne, et parce que ça lui semble plus simple. Donc c'est quand même une situation qui peut paraître pas banale, mais en fait qui l'est quand même, si il y a des filles autour de la table
ou
des filles
qui nous écoutent. Au contraire, moi je la trouve hyper banale, je pense.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça me paraît
pas. Non, mais
du coup.
Voilà. De prime abord, les gens peuvent se dire, voilà. Donc le récit, voilà, il traite parfaitement du sujet du consentement, bien mieux que tout article journalistique, parce qu'en fait, on parle pas de loi ou de morale, mais de ressenti. Et c'est vrai qu'il est difficile d'évaluer si le rapport sexuel, en fait, entre Margot et Robert est véritablement consenti. Et c'est là que le texte est fort, subtil, assez subtil, et aborde si bien ce sujet, quoi. En fait, il semble facile d'expliquer et d'apprendre à dire non, mais parfois changer d'avis est en réalité plus difficile que d'accepter de passer un moment désagréable, surtout quand on a l'impression qu'on s'est mise toute seule, ou qu'on s'est mis tout seul, dans une situation et qu'on se sent donc redevable. L'autrice écrit « Ce n'est pas qu'elle, Margot, avait peur qu'il la force à faire quelque chose contre son gré, mais insister sur le fait d'arrêter maintenant, après tout ce qu'elle avait fait pour en arriver là, l'aurait fait passer pour une personne pourrie gâtée, capricieuse. » Un peu comme si elle avait commandé quelque chose au restaurant et que quand la nourriture était arrivée, elle avait changé d'avis et l'avait renvoyée. Elle raconte donc comment Margot devient alors une salope aux yeux de Robert, car dans son malaise, elle refuse de le revoir, et comment Robert devient un monstre aux yeux de Margot alors qu'en dépit de sa maladresse, il n'avait pas de mauvaises intentions. Donc l'autrice, elle épingle comme, donc on disait, ouais, une situation qu'un grand nombre de femmes peuvent connaître. Il suffit là, pour s'en rendre compte, de taper le hashtag 4 personnes sur Twitter pour se rendre compte du débat qu'a provoqué ce récit et du nombre de femmes qui s'y reconnaissent. Donc voilà, cette fameuse zone grise, je vous invite vraiment à lire cette nouvelle qui fait, je sais pas, je l'ai là en anglais, elle doit faire une dizaine de pages. Donc voilà.
Non, c'est intéressant. Effectivement, ça me rappelle des souvenirs, oui. Cette zone grise où on a envie de dire non, mais on n'ose pas dire non. Et pourquoi on n'ose pas dire non aussi ? C'est épouvantable, quoi. Oui. Et je pense que ce qu'on a imprimé
dans nos esprits
oui. est là pour nous faire hésiter, nous faire accepter ce qu'on n'a pas envie d'accepter.
Ah oui, bien sûr. Même en tant que... En tant que femme, d'être au service de l'homme, des choses comme ça, même si c'est en tant que femme moderne, on peut se dire que... mais ouais, il y a effectivement des schémas qui restent, que ça aide de faire plaisir à l'autre et de...
C'est ce truc aussi un peu de se débarrasser, j'ai l'impression, d'une situation en disant que ça va peut-être solder le truc, ça va passer en 5 minutes, youpi, tralala.
Ouais.
On n'en parle plus, puis comme ça, je suis tranquille pour une semaine.
Voilà.
C'est un peu ce truc-là aussi.
Ouais.
Et alors, ce problème de la zone grise, en fait, elle se pose aussi sur le plan juridique. Parce qu'il y a des positions... Bon, on savait qu'en ce moment, on est en train de pondre une loi pour définir, justement, à partir de quel âge
on peut considérer que c'est un viol. Enfin, à partir de quel... En dessous de quel âge ?
C'est quoi ? C'est une espèce de majorité...
Voilà, la majorité sexuelle. Donc, actuellement, c'est 13 ans, 14 ans. Macron, lui, il est pour 15 ans. Oui. Ce qui est d'ailleurs déjà inscrit dans le code pénal. Et alors, il y a deux points de vue. Le point de vue juridique qui veut dire, qui dit que l'avocat ou les juges disent c'est oui ou c'est non. Oui. Voilà. Alors que les psychiatres, se référant à de l'éthologie, parlent de stimuli, de comportements qui sont plus ou moins. Est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non ? Oui. Et c'est très complexe. Et quand on a à juger. Voilà.
Mais c'est ça. C'est compliqué d'appliquer une loi froidement sur ce genre de choses. Non, il y a énormément de ressentis.
On peut quand même se demander si, à 13 ans, face à un adulte, on a la maturité pour accepter vraiment en conscience. Quoi. Ouais, c'est, moi, ça me paraît un peu limite. Alors, par contre, quand ce sont deux mineurs, apparemment,
ouais.
ça passe bien, sauf si, par exemple, entre 14 et 18 ans, si c'est une gamine ou un gamin. D'ailleurs, on parle toujours au féminin. On ne parle jamais des garçons violés.
Mmh. Oui, c'est vrai. Il y en a aussi. Même si c'est vrai que, bon, bah, là, on est des filles autour de la table. Et qu'au niveau des stats, on prend quand même plus cher. Quoi. Mais oui, effectivement.
Oui. Et puis, en plus, ce que prennent plus cher au viol, c'est 60% des viols, ce sont les enfants.
Oui.
Et donc, alors, quand on est, bon, mettons une gamine donc, de 14 ans face à un gamin de 18 ans, et bien là, ils sont tous les deux, enfin 18 ans, non, il a la majorité.
17 ans, quoi. Ouais.
Et là, si l'adulte, donc le jeune adulte, est proche de la gamine,
ouais.
Alors là, là, on considère que c'est du viol.
D'accord.
Alors que dans d'autres circonstances, il n'y a pas de viol.
C'est assez flou, hein. C'est vrai que... Ouais. Et alors du coup, Manu,
oui.
Toi, tu voulais...
Je voudrais réagir aussi.
Ouais, bien sûr.
Enfin, je rejoins assez Adeline, même vous deux... Même si vous dites...
C'est la pauvre.
Je pensais que personne ne reconnaîtrait.
Je m'en fous.
Je suis grillée. Chier. Pardon.
Oui, donc moi, comme beaucoup de femmes, je pense ce que tu as dit, ce témoignage, cette nouvelle, ça fait écho effectivement à des choses que j'ai pu vivre et plusieurs fois. Et effectivement, c'est très compliqué parce qu'il y a cette culpabilité de dire j'ai été excitée, j'en ai envie, mais en même temps pas tant et je sais pas comment l'amener parce que même pour nous, c'est mystérieux.
Oui.
Et c'est... Donc, mais pour finir sur une note positive, parce que ça m'est arrivé effectivement, et c'était, c'était assez difficile pour moi-même et même pour ma relation avec la personne en question. Mais par la suite, ça m'est aussi arrivé effectivement de ne plus avoir envie pendant, pour donner les détails, pendant que ça se faisait. Et en fait, je l'ai dit tout simplement. J'ai hésité, j'ai un peu attendu, mais j'ai fini par le dire parce que de toute façon,
ça allait être naze, quoi.
Parce que et que j'avais vraiment envie de m'affranchir, mais de passer entre guillemets ce cap. Et la personne en question l'a très bien reçu. Elle s'est même sentie assez conne parce qu'elle s'est dit j'aurais dû le sentir et je ne l'ai pas fait et c'est dommage. Enfin, je ne l'ai pas ressenti. Et enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est pas évident, mais le fait, effectivement, en tout cas pour moi, ça a marché, de s'exprimer et de le dire, c'est dur, mais en fait, si vous êtes avec la bonne personne, ça peut bien se passer au final.
Ça devrait bien se passer. Voilà. Oui, alors ça peut se terminer par une paire de gifles.
Oui,
comment?
Et là, tu te défends et tu as lu le livre
de Marga et hop, on y va.
Mais c'est vrai que je pense que c'est assez important de rappeler en fait que quel que soit le moment et la situation, en fait, on ne doit de sexe à personne.
Mmh.
Jamais.
C'est
on
sûr.
Ne doit pas du sexe.
On n'est pas redevable.
C'est ça. C'est même ça n'a rien à voir. Tu t'es fait payer un repas. C'était sympa. Voilà. Tu ne dois pas de sexe.
Non. C'est sûr.
Jamais.
C'est sûr. Du coup, est-ce que tu voulais rebondir aussi sur le
Sujet que j'étais censée préparer.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé du consentement sexuel, même si le thème, en fait, là, c'était le consentement. On n'a pas cherché à fouiller plus, en tout cas, nous. Mais effectivement, le consentement, c'est une notion très large qui ne touche pas que la sexualité, qui peut aussi être donner son consentement pour des actes médicaux.
Ouais, tout à fait. Donc moi, c'est vrai que récemment, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « L'accouchement est politique » de Laetitia Négrier et Béatrice Cascal, j'espère que ça se prononce comme ça, qui revient, donc qui fait un historique sur l'accouchement médicalisé en France, d'une manière générale, et plus globalement sur donc, les violences obstétricales, que ce soit au niveau de la maternité ou au niveau quand vous avez votre consultation chez votre gynéco. Donc c'est un livre qui se lit, enfin voilà, qui est assez accessible pour parler voilà, des critères, qui se lit très bien, qui est très référencé. Voilà, il y a pas, elles sont pas, c'est pas une écriture pompeuse où il faut avoir un bac plus 12 pour comprendre. Et en plus voilà, c'est très référencé. Il y a des notes partout, il y a des références partout. Donc ça, pour ça, c'est assez chouette. Et du coup, ben voilà, ça parle surtout de ce qui se passe en France, en fait, parce que moi, en lisant ce livre, j'ai découvert que par rapport à nos voisins européens, effectivement, la France est un pays où, en fait, pas la maternité, mais où l'accouchement est limite une marchandise, parce que, enfin voilà. Enfin, il faut le dire, hein, c'est limite une marchandise. Et on préfère faire accoucher des femmes en série au détriment de leur bien-être, de manière générale. Donc là, on parle d'accouchement plutôt dans les hôpitaux. Voilà. Je sais pas, alors moi, j'ai jamais accouché.
Tu n'as pas encore accouché, tu n'accoucheras peut-être jamais, mais voilà.
Est-ce qu'il est fait référence dans ce bouquin, la possibilité d'accoucher chez soi ou
Bien sûr. Ouais, bien sûr.
Et comment c'est, d'une façon générale, comment c'est pris statistiquement? Est-ce que il y a un refus de la médecine, enfin, de participer à ce genre de choses? Comment est-ce que ça se passe?
Ouais. C'est le micro là.
Oui.
Disons que elle parle. Comment ça s'appelle déjà?
Parce qu'il y a quand même des femmes qui arrivent et qui peuvent accoucher chez elles sans que ce soit le drame.
Fait, il y a des sages-femmes habilitées pour ça, il y a des formations. Voilà,
parce qu'il y a une période où c'était pas possible.
Oui, hein. Oui. Alors, je pourrais pas te dire depuis quand c'est possible, mais effectivement, il y a des sages-femmes qui opèrent justement pour l'accouchement à domicile et même d'autres formes d'accouchement que je n'ai pas en tête. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que. Pour qu'elle puisse opérer, il faut qu'elle paye une assurance qui est quand même extrêmement chère, qui grosso modo vaut le même, enfin qui coûte le même prix que, enfin que paye un médecin qui aurait un salaire quand même beaucoup plus élevé, et que du coup indirectement on empêche ces personnes de pratiquer parce que en fait c'est un trou, enfin elles peuvent pas forcément.
C'est encore une violence.
C'est encore une violence. Effectivement.
Du coup, les personnes qui continuent à travailler comme ça, à permettre aux gens d'accoucher à domicile, c'est vraiment une volonté personnelle, quoi, en quelque sorte.
Ouais.
C'est un sacrifice financier.
Exactement. Ouais. Tu as très bien résumé.
Après, bon, heureusement, tu vois quand même dans quelques matières que ça se développe sans accoucher à la maison, mais ne pas avoir
à la maison.
Ne pas avoir l'accouchement classique qui satisfait tout le monde sauf la mère, en fait. Qui est d'être allongé, les pieds dans les étriers, pour le confort souvent des médecins autour. Et...
T'as des cliniques où tu peux accoucher dans l'eau aussi
Oui, tout à fait.
Aux États-Unis, ça se fait beaucoup.
Mais... En France aussi, j'ai
même ici, alors à la maternité de Saint-Aff, il y a quoi? Il y a le label Ami des bébés. Je sais que la maternité de Saint-Afrique a le label Ami des bébés, où justement, ils te proposent d'autres types d'accouchement que simplement... Après, ce sera à creuser. C'est vrai que j'en avais entendu parler il y a quelques années, mais je ne me suis jamais rencardée là-dessus, à savoir...
Ça me paraît beaucoup moins hostile, une petite piscine, qu'un espèce de truc où tu es tordu dans tous les sens.
Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'elles mettent en avant, effectivement... Un accouchement où la femme est allongée, elles disent que c'est pas du tout une position.
C'est pas une position.
C'est pas fait pour. C'est pas une position physiologique pour accoucher.
Ah oui, la gravité, quoi.
Décemment, quoi. Il y a ça. Après, voilà, elles évoquent l'épisiotomie, donc le fameux point du mari, où quand une femme accouche, ça déchire. Alors, c'est quoi déjà le muscle?
Le périnée.
Le périnée, effectivement, pardon. Et
ah, ça peut déchirer, attends, fais pas peur à tout le monde.
Être dégueulasse.
La technique, j'en ai l'expérience, la technique de l'accoucheur joue. Hein, parce que moi, pour deux bébés équivalents, le premier, il m'a ouvert, et le deuxième, c'est passé comme il est à la boîte.
Ouais. Mais du coup, ce dont elle parle, c'est par rapport à ce qu'on appelle le point du mari. Donc, quand on recoue ce muscle, c'est pas obligatoire, en fait, de base. Et
non.
Il y a eu vraiment... Enfin, là, c'est des témoignages, c'est vraiment... c'est prenant.
C'est la facilité.
Il y a même eu des réflexions. Donc, pour le coup, c'était des hommes. Mais voilà, il faut aussi rappeler que des femmes aussi peuvent avoir des réactions complètement sexistes.
Tout à fait.
Que c'est pas que les hommes sont méchants. Mais là, en l'occurrence, c'était un homme qui disait vous allez voir, votre mari, il va bien aimer quand je vais vous recoudre. Parce qu'effectivement, a priori, le vagin devient plus étroit. Donc, il y a une forme de... Enfin, ça, c'est plus excitant lors de la pénétration.
Cool. Oui, non, mais c'est vrai que, depuis quelques années, j'avais lu et j'en parlais autour de moi, à des collègues de mon âge, et plein de nanas étaient pas au fait du tout de ça, et elles disent, mais attends, mais ça se pratiquait dans les années 50, je dis, non, ça se fait toujours, ça arrive. Bon, c'est clair que maintenant qu'on en parle beaucoup, je pense que les gens, ils sont plus vigilants, notamment les mères, mais quand tu viens de sortir un bébé, je sais pas combien de temps t'es resté sur la table de travail, t'as pas forcément trop conscience qu'il va te resserrer
c'est pas du tout ce qui va t'arriver.
Voilà quoi. Un peu dans les vapes, j'imagine.
Oui, c'est ça.
C'est profiter aussi de cette faiblesse. Bon,
il y aura encore beaucoup à dire effectivement sur ces violences et sur ces notions de consentement. D'ailleurs, je pense que tout ce qui est violence médicale, obstétricale, on y reviendra dans l'année à un moment.
Je crois que c'était prévu.
Donc
surprise, sur les ondes. Et je voulais juste avant de finir, excusez-moi, revenir un petit peu sur ce bouquin aussi, sur c'est une violence aussi insidieuse en amont, parce que il y a cette image, dans l'imaginaire collectif du sacro-saint médecin qui a raison.
C'est ça.
On va écouter son médecin aveuglément parce que il a fait des études et que il sait ce qui est bon pour vous ou pas. Et il y a des témoignages de femmes qui disaient finalement, je me suis rendu compte après en discutant avec des sages-femmes qui faisaient des choses différemment, que en fait on m'avait raconté des trucs, on m'avait imposé des choses, alors que c'est juste parce que j'étais mal informée, mais que en fait il faut un peu s'enlever cette image les médecins ont tous raison et
tous les droits.
Mais t'as un bouquin qui est hyper intéressant, celui que je lisais il y a pas longtemps là, qui s'appelle Sorcière, sage-femme et infirmière, je sais plus les auteurs par contre, et qui expliquait la transition de accoucheuse à la maison à l'institution médicale qui apprend possession un petit peu du savoir et de la position d'accoucheur, et qui a complètement mis les sages-femmes de côté, sorti des hôpitaux, etc.
Ouais.
Et toutes les personnes qui avaient des connaissances empiriques, quoi, qui n'avaient rien à voir. C'est très intéressant aussi.
Alors on reviendra un petit peu sur ce sujet, parce qu'effectivement, il y a plein de développements possibles.
Ouais, tout à fait.
Et de connaissances à acquérir sur ces sujets, savoir par où on est passé, puis aujourd'hui, où on en est et où est-ce qu'on va.
C'est ça.
Nous allons nous quitter en vous rappelant que cette émission sera rediffusée mercredi, donc demain à 14h, et samedi à 16h. Et bien sûr, toujours en podcast, quand vous le souhaitez.
Sur le site de radio.
Sur le site de Radio Sainte-Afrique. La prochaine émission, donc, nous avons dit que nous parlerions
du féminisme. Ça va dépoter.
Encore un vaste sujet. Merci à Félix Potin qui a assuré la technique.
Brillamment.
Brillamment.
Et puis, nous nous retrouvons dans un mois.
C'est ça.
Voilà. Au revoir.
Et salut.
Et bisous.
Miaou. Miaou. Oh, je vais trouver un romain.
Chalor.
Miaou. Miaou, 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 miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Sainte-Afrique. C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à... Le bar à chat.
Le bar à
chatte.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on dit?
Le bar à chatte, l'émission chat, heureuse,
de Radio Saint-Afrique.